Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore. Aujourd'hui, on écoute Ne pleure pas, un documentaire de Isabelle Sainte-Rose. Isabelle se passionne pour le livre « C'est pour ton bien » d'Alice Miller. Ce livre, écrit en 1980, parle des racines de la violence dans l'éducation des enfants et fait le constat de la présence de 17 principes de pédagogie noire. La pédagogie noire est une forme d'éducation répressive visant à soumettre les enfants par diverses méthodes qui incluent aussi bien les châtiments corporels que la manipulation mentale. Isabelle décide de voir si et comment ces principes résonnent chez des personnes de son entourage. Ces principes existent-ils encore aujourd'hui dans notre société? Comment les personnes adultes vivent-elles la maltraitance qu'elles ont subie? Est-ce que la maltraitance se transmet de génération en génération?
Ma chère petite maman, tu le sais sûrement, de là où tu es, que je suis en train de faire un documentaire dans lequel je vais parler de toi et de ce qui s'est passé entre nous, toi et tes enfants. Après la cérémonie où l'on t'a tous et toutes dit au revoir, ta sœur Lucette m'a tenu le bras. Elle s'est accrochée à moi. Elle pleurait en me disant « Tu sais, je voulais te dire, elle t'a pardonné. » Ça m'a surprise sur le moment. C'était choquant. Ça aurait dû être l'inverse. Que moi, je t'ai pardonné. Que nous, tes enfants, te pardonnions. Et puis très vite, je me suis dit que ce n'était pas le moment de parler de tout ce que tu nous avais fait. À nous, tes enfants, alors que ta sœur souffrait tant de te perdre. Que ça serait pour plus tard. Ce plus tard, c'est maintenant.
Oui, bonjour.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec Sylvie Anzalone et Monsieur Baez. À 10h.
Ok, un instant, je vais regarder. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît?
C'est Sainte-Rose.
Oui, en effet. Vous avez bien rendez-vous dans le bureau 2B159. Je vais vous donner un badge visiteur. Voilà, s'il vous plaît.
Super, merci.
Voilà. Et je les préviens de votre arrivée.
Est-ce que vous êtes parfois confronté à des situations où vraiment vous sentez que les parents en fait disent non, ça c'est privé et vous n'avez pas à vous occuper de ces affaires-là et je fais ce que je veux et comment vous articulez ça en fait en tant que professionnel?
La démarche sera toujours d'essayer de créer une relation avec les parents et donc avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. De prendre le temps à certains moments parce que les familles sont aussi fermées de par leur histoire, de par les problématiques qu'ils rencontrent et puis de par le fait qu'ils ne peuvent pas, comme cela, parce qu'on l'a décidé à un moment donné, tout simplement de faire confiance. La confiance, elle doit pouvoir s'installer. Et de l'autre côté, on doit aussi se pencher sur le berceau de l'enfant, sur le jeune, et d'être au plus près de ce qu'il vit.
Oui, en fait, il faut bien se dire que pour l'OINÉ, le centre, ce sera le bien-être de l'enfant, de toute façon. Alors c'est vrai que, comme Olivier le faisait remarquer, l'idée, c'est vraiment d'être un soutien aux parents, d'accompagner, d'aider. Mais puisque c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, toujours, on ne laissera pas une situation, parce qu'elle est d'ordre privé, se dégrader ou fermer les yeux face à quelque chose qui n'est pas du tout pour le bien-être de l'enfant.
Ma chère maman, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touchée et qui s'appelle « C'est pour ton bien » d'Alice Miller. Alice Miller était chercheuse et psychanalyste. Elle était juive et a vécu la Seconde Guerre mondiale quand elle avait 16 ans au ghetto de Varsovie. Dans sa vie, elle a beaucoup milité contre la maltraitance des enfants. Dans ce livre, elle s'appuie sur beaucoup de sources, des traités d'éducation, des témoignages, et elle en tire 17 principes dits de pédagogie noire. Dans C'est pour ton bien, elle met en lumière les racines de la violence dans l'éducation. Ce livre m'a passionnée, et pendant 2 ans, j'en ai vraiment beaucoup parlé autour de moi. Et j'ai finalement décidé d'aller rencontrer plusieurs personnes de mon entourage et de leur demander comment ces principes de pédagogie noire résonnaient chez elles.
Le sentiment du devoir engendre l'amour.
2. On peut tuer la haine par des interdits.
3. Les parents méritent a priori le respect en tant que parents.
Ça m'énerve.
4. Les enfants ne méritent a priori aucun respect.
5. L'obéissance rend fort.
6. Un sentiment élevé de sa propre valeur est nuisible.
Physiquement, ça serait de l'ordre du peut-être du poids, vu qu'il vient se poser avec force sur ma poitrine.
7. Un faible sentiment de sa propre valeur conduit à l'amour de ses semblables.
8. Les marques de tendresse sont nocives. Mièvrerie.
9. Il ne faut pas céder aux besoins de l'enfant.
10. La dureté et la froideur sont une bonne préparation à l'existence.
J'ai l'impression que l'on parle d'un type d'éducation qui est d'un autre âge et qui ne correspond pas au principe dans lequel mes parents m'ont élevé.
11. Une reconnaissance simulée vaut mieux qu'une sincère absence de reconnaissance.
12. L'apparence est plus importante que l'être.
13. Les parents, ni Dieu, ne pourraient supporter la moindre injure.
14. Le corps est quelque chose de sale et de dégoûtant.
Du coup, le corps est un peu... devient un peu flottant, un peu froid, un peu une chute en arrière aussi. C'est pas très agréable.
15. La vivacité des sentiments est nuisible.
Ça fait peur. Ça fait peur de se dire que des adultes pensent ça, peut-être inculquent ça, que donc des enfants vont grandir dans ce type, en tout cas, de message. Ce sont des principes dangereux.
16. Les parents sont des êtres dénués de pulsions et exempts de toute culpabilité.
Ici, c'est lourd. Moi, j'aurais plutôt envie d'insister sur la notion de besoin plutôt que de l'écrire de cette manière noire.
17. Les parents ont toujours raison.
Les parents ont toujours raison, mon œil.
Ma chère maman, faire ce documentaire me remue beaucoup et fait ressurgir des choses du passé. J'ai eu besoin de parler aussi avec papa de tout ça, de la violence dans l'éducation, y compris de la sienne. accueillir et embrasser tout ça, ça demande vraiment un espace, un paysage immense à l'intérieur de soi. Et toi, papa, ça résonne comment chez toi ?
Qu'est-ce que je peux te dire ? Ça résonne comment ? Ben, écoute, moi, déjà, à l'époque, pour nous, étant gamin, quand c'était comme ça, on disait que c'était normal. C'est en prenant de l'âge qu'on se rend compte que c'était pas normal. C'était pas logique. Donc, moi, pour le moment, c'est du passé. Moi, ça me dérange pas. C'est ce qui est fait, il fait, et puis bon, ben voilà.
Et avec vos enfants, du coup ?
Ben avec mes enfants, bon, ben, apparemment, tout se passe bien. Enfin, peut-être, tu vas me dire. Je ne sais pas. Non, pour moi, tout va bien.
Trouble de l'attachement. Trouble anxieux. Trouble de stress post-traumatique. Trouble de l'humeur. Trouble de l'adaptation. Trouble alimentaire. Trouble de la personnalité. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
J'ai vécu en tout cas le fait quand j'étais petite que les parents méritent a priori le respect en tant que parents. Rien que par leur qualité de parents. Mais je ne l'ai jamais contesté quand j'étais petite. Ils me le disaient, on ne discute pas. On ne discute pas les ordres des parents. Donc j'ai été élevée dans cet esprit-là. Et ce n'est que quand j'ai voulu faire d'autres études que celles que mon père voulait faire que je me suis révoltée pour la première fois. Et donc j'étais en fin d'humanité. Jusque-là, j'avais toujours été une petite fille, puis une jeune fille obéissante à son papa et à sa maman.
Les parents méritent a priori le respect en tant que parents. Ça fait écho à des choses que j'ai vraiment entendues. Comme si les parents étaient plus respectables que les enfants, ce qui est absurde. Enfin, c'est complètement fou qu'on ait pu penser des choses pareilles. Je trouve, enfin... C'est des souvenirs de ma mère qui me disait tu parles à un adulte, des remises à l'ordre, et puis cette espèce de distance abyssale qu'elle créait entre ses enfants et elle-même, enfin, un truc presque hiératique, qui est vraiment très étrange pour moi, parce que moi qui suis... Super, c'est plutôt le contraire que j'essaye de faire. J'essaye d'être proche, quoi.
Le principe général avec mon père, c'était que lui disait, il fallait appliquer ce qu'il disait, ne pas contredire, et tout était déjà préconçu, prépensé. Enfin, c'est lui qui pensait pour toute la famille, et on n'était que trois en fait. Par exemple, passer à table. Tout le monde en même temps, commencer à manger en même temps, bien se tenir à table, ne pas parler, ne pas s'amuser, et manger ce qui a été servi dans l'assiette, très important. Passer 5, 6 ans, 7 ans, je me rappelle assez clairement de ne pas quitter la table tant que l'assiette n'est pas terminée, rester à table tout seul pour le coup. Puisque tout le monde quittait la table. Et là, du coup, je ne me rappelle pas qui cédait, en fait, après une heure et demie ou deux heures. Ça me paraît encore très, très long et très dur aussi. Ben, j'avais rien à dire, en fait. J'avais juste à exécuter les ordres.
La vivacité des sentiments est nuisible. Ah. Qu'est-ce que je pense de ça ? J'arrive pas à m'empêcher de penser qu'il y a eu chez moi quand même une forme d'autocensure dans la formulation des sentiments et des, et des émotions. Parce que j'étais quelqu'un, étant petite, de très calme et de très sage. C'était le retour que me faisaient beaucoup de personnes. Et je ne saurais dire si c'est parce que c'était mon caractère naturel, ma personnalité, ou si je ne me laissais pas aller à mes émotions les plus négatives. J'exprimais quand même beaucoup la tristesse, la colère moins, je pense.
Un sentiment de sa propre valeur est nuisible. Oui, effectivement, ça fait écho à des choses que j'ai vécues aussi. J'ai pas spécialement eu l'impression d'avoir été encouragé à développer une personnalité propre, quelque chose qui puisse me rendre fier de moi. Au contraire, c'était un peu toujours bien me laisser comprendre que. Voilà, je suis pas grand chose, quoi, que j'ai pas. Je me rappelle, j'écrivais déjà un peu des chansons, des poèmes, comme tout le monde à celle-là, mais j'avais genre 14 ans, quoi. J'étais pas spécialement fier, mais j'essayais, quoi. Et ma mère a trouvé un poème un jour. Déjà, elle regardait dans mes affaires, elle lisait mes carnets. Horrible. Et elle a trouvé une page avec un poème. Et elle a dit quelque chose du style. Qu'est-ce que je fais de ce chef-d'œuvre ? Je le garde ou je le jette à la poubelle ? Avec un ton vraiment méprisant, j'ai trouvé ça, mais tellement humiliant, quoi. C'était vraiment. Et donc j'ai compris qu'apparemment, il fallait quand même que je me fasse pas des idées sur mon potentiel artistique. Il fallait toujours que je reste à ma place. Donc voilà, ça me fait penser à ça.
Est-ce que, par exemple, chez tes frères et sœurs, le fait de ne pas avoir le choix, le fait d'être battu, etc., comment ça résonne chez toi, ça ?
Moi, j'ai été tapé. Tapé pour taper, quoi. Donc, il faut refaire l'éducation, mais sans taper les enfants. Et ça, si tu tapes un enfant, il faut leur dire pourquoi. L'expliquer pourquoi tu fais ça. Plus tu vas taper l'enfant sans l'expliquer, plus il va faire des conneries. Quand tu as expliqué, si elle a fait une grosse bêtise, tu l'as expliqué, tu l'as tapé, je ne pense pas qu'il va recommencer. Taper, et j'explique, c'est vraiment s'il fait une grosse bêtise. Il y a des grosses bêtises que tu ne peux pas passer dessus. Tu ne peux pas passer la main, tu ne peux pas dire, ben voilà, tu as fait ça, c'est pas bien. Non. Ça, il va, tu le dis, mais autrement.
En tant qu'enfant, je n'ai jamais subi de violence. Et par exemple, quand ma mère a vu un jour mon mari qui sortait de ses gonds et qui frappait un de mes enfants, elle en était malade. Je dis, mon mari qui avait été élevé d'une façon peut-être plus brusque, parce qu'il y avait 5 garçons chez lui, je l'ai vu 2 fois, entre guillemets, rosser un enfant. C'est Olivier qui avait fait une grosse bêtise à la campagne. Enfin, une grosse bêtise aux yeux de mon mari. Il a coupé les racines d'un arbre qu'il allait planter. Et l'aîné qui avait jeté sa raquette, il ne visait pas son frère, mais c'est arrivé sur son frère. Et là, il y a eu vraiment 2 éclats de violence. Mais c'est les 2 seuls que j'ai connus. Hein. Moi, j'en ai jamais eu. Je n'en ai jamais reçu. Et je n'en vois pas chez mes petits-enfants.
Il m'est arrivé de recevoir des fessées et des claques, parfois. Mes parents mettaient court à mes émotions avec ça, ou me faisaient comprendre que j'avais fait une bêtise. Donc, je ne peux pas dire que mes parents étaient dans un principe de non-violence absolue. Ma grand-mère maternelle disait, à qui je racontais ça, me disait « Oh, mais c'est horrible, c'est horrible !» Mais il faut pas que tes parents fassent ça. Voilà. Ma grand-mère paternelle disait, bien fait pour toi. Donc, c'est autant dire que j'avais des réactions qui étaient vraiment complètement différentes selon les personnes auxquelles j'avais affaire.
Je me rappelle qu'un jour, quand même, j'ai reçu une claque de mon père parce que je n'ai pas rigolé. Enfin, je me suis moqué d'une blague qu'il faisait, quoi. Et il a été super vexé et il m'a foutu une claque, quoi. Ça me paraît complètement dingue maintenant. Enfin, c'est tellement abusif, quoi, de faire ça comme si c'était une sorte de divinité. Il faut absolument considérer que tout ce que tes parents disent en permanence, c'est toujours, toujours génial, toujours drôle.
Mes parents m'ont battu, l'un et l'autre. Je pense que si je me remets à l'époque, la majorité des fois, je ne savais pas d'où ça venait. Donc ça m'incitait à être vigilant. J'ai développé comme ça une sorte de précaution. Mais c'était assez imprévisible. Donc c'était toujours en réaction à quelque chose que j'avais fait. Je comprenais pas de quoi il s'agissait, en fait.
Liste de choses pour punir les enfants. Le martinet. La ceinture. Les sabots en bois. La batte de baseball. Jamais utilisée, mais a servi à menacer. La cuillère en bois. La fourchette. Le bol, la casserole.
Demander à ses enfants de se mettre à genoux en gardant les bois en croix pendant 20 minutes. Ça, c'était suite à ce que vous avez fait, mon frère Détroit. Verser le fétou de pâte derrière le mur.
Comment t'as eu cette idée-là? Enfin, tu vois, il y a plein de punitions possibles.
Et c'est ce qui m'est venu à l'idée. On va revenir, on dit il faut pas reproduire ton enfance. J'ai été marqué par ça et je l'ai refait. Voilà.
Et les pâtes derrière le mur, tu disais tout à l'heure le degré de bêtise. Ouais. Pourquoi est-ce que c'était si grave pour toi?
C'était grave pour moi, parce qu'étant gamin, on manquait beaucoup de nourriture. On mangeait pas à notre faim tout le temps. Et là, je travaillais comme une forcenée pour vous donner à manger, et j'ai tout retrouvé derrière le mur. Et ça, c'est pas passé. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je détestais le tapis. Voilà.
Ouais, c'était pas souvent, mais... C'était difficile hein, à vivre. Je veux dire, c'était assez effrayant, quoi. Enfin, je sais pas, je me sentais toute petite. Et par rapport à la... Ouais, au fait de recevoir des coups... Déjà, même quand on est grand, bah, ça fait pas plaisir. Hein. Si quelqu'un arrive et te met une claque, je pense que tu vas pas être content. Mais quand on est... Je sais pas, quand j'étais enfant, donc déjà, t'es un adulte, t'es plus grand que moi... C'était vraiment terrifiant. En plus d'être douloureux physiquement, c'était terrifiant, vraiment.
Ouais, bah, je vois ce que tu veux dire, mais non, parce que tous les enfants se disent que les parents doivent leur protéger. C'est vrai, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des fois, tu es obligé de sévir. Tu es obligé. Tu peux pas tout laisser passer.
Chère maman, à la maison, j'ai rapporté plein d'objets de toi. Des vêtements que je porte très souvent, des assiettes, des casseroles, des savons, une couette, des chaussettes, un hortensia et bien sûr Mimine. Elle est vraiment adorable. Le jour où tu es parti, il s'est passé quelque chose d'étrange. À un moment, c'était comme si une vague immense de plusieurs dizaines de mètres allait s'écraser sur moi. J'ai pensé que si je la laissais venir, je m'effondrerais et ne me relèverais pas. Que je ne pourrais plus rien faire, pas même venir à ton enterrement. Puis j'ai senti comme une partie de moi sortir de moi et rester là, sur le côté. Comme une vague suspendue, là, à côté de moi. J'ai repris mes esprits, je le laissais là et j'ai fait tout ce que je devais faire pour retrouver Marie-Laure et Willy et tout préparer. Au funérailles, j'étais à la fois là et pas là. J'ai tout bien enregistré. Les images, les sons, les odeurs, les ombres et les lumières sur les visages. J'ai consolé aussi et presque pas pleuré. Mais en ce moment, je pleure souvent. C'est pas du tout prévisible. Ça peut arriver partout et n'importe quand. Un souvenir et la vague revient. Moins grande et moins forte, mais bien là. Parfois, je cherche à m'accrocher à toi, mais il n'y a rien à quoi m'accrocher. Et je ne sais pas qui je pleure. La maman que j'ai eue ou la maman que je n'ai pas eue. Il n'y a juste pas de sol sur lequel m'appuyer. Sans cesse ne pas avoir pied, rester la tête hors de l'eau, c'est fatigant. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait très longtemps. Depuis toujours, je dirais. C'est que quelque chose de rassurant, de stable, a toujours manqué entre nous. Faire ce documentaire me remue encore beaucoup aussi. J'ai téléphoné plusieurs fois à Lucette, car je voudrais lui demander de quoi tu m'as pardonné. Elle ne répond pas. Je pense qu'elle est fâchée, car quand j'ai publié un texte pour toi pour ton anniversaire, elle m'a écrit qu'elle trouvait mes mots durs et que c'était inacceptable parce que tu es morte. Mais moi, je pense qu'on a encore des choses à se dire.
Comment tu t'en es sorti? Comment t'as fait avec tout ça?
De toute façon, pour sortir de tout ça, il faut travailler sur soi-même. Il faut partir du principe, ce qui est arrivé, tu dois le mettre de côté. Même si c'est là, tu vas vivre avec, mais il faut que tu avances dans la vie. Donc, tu passes haut pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup sur moi. Donc, si j'ai laissé le pays de bonheur, c'est à cause de ça aussi. Si je ne veux pas retourner définitivement, c'est pour ça aussi, parce que je me suis construit ailleurs et je ne veux pas retourner pour retomber dans les souvenirs que j'ai cachés. Voilà. Moi, si tu as entamé cette démarche, peut-être que tu as raison, tu as une raison pour le faire. Peut-être aussi toi, tu te cherches. On a tous vécu des choses difficiles dans la vie. Peu importe ce qu'on a vécu. Il faut avancer dans la vie. Mets tes choses de côté. Ne pas y revenir. C'est comme on dit, on ferme la clé, on jette la clé. Et après, on avance. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire. C'est tout ce que je veux te dire. Bah, après, bon, bah, chacun après réagit différemment. Moi, c'est ma façon de réagir. Voilà. J'espère que ça va t'aider.
Ben merci. Merci beaucoup.
Maman. J'ai finalement envoyé un message écrit à Lucette pour lui demander de quoi tu m'as pardonné. Toujours pas de réponse. Je crois qu'elle parlait du fait que tu m'as souvent reproché d'avoir envoyé cette lettre au juge. Cette lettre qui nous a aidés à aller vivre avec papa plutôt qu'avec toi. Est-ce que c'est bien ça que tu m'as pardonné? De m'être sauvée? De nous avoir éloignés de toi? Parce que c'était trop dangereux? Parce que tu étais trop dangereuse pour nous? Pendant une des périodes de grande crise à la maison, un jour, je t'ai entendu pleurer. J'ai traversé la maison pour savoir ce qui se passait. J'ai attendu dans le couloir, près de la porte, et suis restée figée. Ce que j'entendais là étaient des pleurs qui venaient d'une souffrance abyssale. Personne ne voudrait souffrir comme ça. Et je suis restée bloquée sur le pas de la porte. Car en même temps que j'entendais cette souffrance, il y avait tout ce que tu nous faisais subir au quotidien. Les insultes, le mépris, la haine, les coups, et cette tyrannie domestique où nous devions toujours être à ton service, à chaque seconde. Où tout notre espace mental était systématiquement occupé par toi et seulement toi. C'est là que c'est complexe. Car bien sûr, tu étais dans une grande détresse. Et en même temps, ce que tu nous as fait est inacceptable.
Tu vas la fermer, ta gueule. Dépêche-toi pas, surtout. C'est ça, pleure, tu pisseras moins. Salope. T'es trop conne, ma pauvre fille. T'es bonne à rien. J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour que je t'ai eu. Ah ouais, quand même. Ouais, d'accord, bah non. Je savais pas que ta mère disait ça, j'en sais rien. J'ai pas de souvenir, mais quoi, mais bon. Bah tu vas fermer ta gueule, ça j'ai entendu, mais le reste, surtout la dernière, de la parole du maire, c'est grave. Donc je ne sais pas. Pas comment vous avez pris ça, toutes les deux, mais bon, ça peut marquer.
Donc si l'on perçoit une situation de maltraitance, il est intéressant et il est incontournable d'avoir connaissance du décret du 12 mai 2004, qui dit que toute personne adulte qui est confrontée à une situation de maltraitance a le devoir d'apporter aide et protection. C'est pas toujours évident, et donc le décret a prévu que si on estime qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour apporter aide et protection, il y a possibilité pour l'intervenant de s'adresser soit à une équipe SOS Enfants, soit à un centre psychomédico-social ou centre de promotion de la santé ou au service de l'aide à la jeunesse. Donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, la priorité sera donnée à l'aide, sera donnée au soutien à la parentalité. Ce n'est qu'à partir du moment où il y a des inquiétudes à l'égard d'un enfant et que les parents ne sont pas dans un processus de collaboration qu'il y aura une interpellation des autorités judiciaires et donc du parquet.
Fleury les Aubrais, le 20 décembre 1996. Monsieur le juge, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Isabelle Sainte-Rose. J'ai 17 ans et demi et je suis en terminale au lycée Potier. Je vous écris pour vous faire part de ma situation actuelle. Mes parents sont divorcés et séparés depuis le mois d'avril 1994. Ma mère a obtenu la garde des enfants, Marie-Laure, 12 ans, Willy, 7 ans, et moi. La décision du juge, le départ de papa, tout s'est passé très rapidement. Si nous nous sommes tous plus ou moins faits à ces changements, vous devez vous demander ce qui me pousse à vous écrire. C'est simple. Je ne veux plus vivre avec ma mère. Si j'avais été seule, j'aurais entamé des démarches d'émancipation bien avant. Mais je ne suis pas seule. J'ai une sœur et un frère. Après la séparation, j'ai pris peu à peu certaines responsabilités, comme de faire à manger tous les soirs, par exemple. Cela a été considéré par ma mère comme naturel. Je faisais cela parce que j'en avais envie et parce que je savais que si je ne le faisais pas, on mangerait tous les soirs à 22 heures. Si j'attendais quelque chose de la part de ma mère, c'était de la reconnaissance, de l'affection. Au lieu de cela, ce sont des injures et de la méchanceté. Pendant longtemps, avant que nous n'ayons entamé les démarches pour modifier les droits de garde, notre vie se résumait à deux mots : aliénation et agression. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, et même si l'on ne disait rien, nous étions agressés moralement et parfois même physiquement. Quand je dis physiquement, je ne parle pas d'une gifle ou même d'une fessée. Je parle de traîner un enfant à travers le salon en lui tirant les cheveux. Il y a aussi un autre aspect dont je vais vous donner un exemple représentatif. Jeter une éponge à terre avec un geste méprisant et dire « Tiens, nettoie la tache ». Depuis plus d'un mois, elle est en arrêt maladie et la vie à la maison est devenue infernale. En plus des agressions verbales et physiques, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver sur le palier de la porte, même s'il faisait très froid, en attendant qu'elle veuille bien m'ouvrir. La poignée de la porte des toilettes a disparu. Elle l'a retirée pour ne pas que Marie-Laure s'y réfugie en cas de coup. Si je vous écris, c'est que je crois la situation urgente. Je ne veux pas être séparée de mon frère et de ma sœur, et je crois que ce que nous vivons le justifie aussi. J'ai essayé d'être le plus objectif possible et de n'exagérer ni de minimiser les faits. Je vous remercie d'avance de nous venir en aide. Isabelle Sainte-Rose.
Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand je me suis renseigné un peu sur Alice Miller, ça fait beaucoup d'écho avec ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que, moi, par exemple, qui n'ai jamais été branché par la pédagogie, j'ai jamais lu un seul livre là-dessus. Je me suis juste servi d'espèce de baromètre inversé, de faire exactement l'inverse de mes parents. Ça a très bien fonctionné. En fait. Mais je me rends compte à quel point ça peut être mais complètement désastreux, quoi. Une éducation ratée ou quand on fait transpercer ses propres frustrations et qu'on se sert des enfants comme exutoire à nos névroses, etc. Ça peut vraiment être dramatique. C'est pas rien, quoi. Enfin...
Moi, j'ai été élevée dans le fait que donner et recevoir des marques de tendresse, c'est une bonne chose. Mes parents étaient toujours d'accord de recevoir des marques de tendresse et de m'en donner. Et j'avais le droit de demander des marques de tendresse. J'avais le droit de dire « Oh, je me sens triste » ou « Je me sens pas bien, j'ai besoin d'un câlin ». Donc ça, c'est une sacrée manière d'être éduquée quand même. C'est quelque chose de marquant dans son enfance. Je trouve qu'on part sur de sacrées bonnes bases quand on part avec ça.
Hélas, je peux dire que les principes de la pédagogie noire sont encore là. Après, aujourd'hui, ma position, c'est qu'il ne faut pas frapper un enfant, il ne faut pas toucher un enfant. Et même, des fois, je me sens autorisé dans le métro à intervenir. C'est pas mon enfant, mais c'est une société dans laquelle je vis et je veux pas que ça se passe comme ça. Et ma propre expérience, c'est que ça m'a desservi plus qu'autre chose. J'ai jamais rien appris avec des coups, avec des gifles ou avec... Voilà.
C'est clair que quand il y a un danger que l'adulte perçoit, il est obligé de faire obéir l'enfant. Je dirais que pour les petits, c'est fréquent, pour éviter des dangers, ne fût-ce que dans la rue, n'importe quoi. Et si c'est un danger, même à 8, 10 ou 12 ans, parce que l'enfant n'est pas encore capable de juger quelque chose, il faut que là, les parents puissent faire preuve d'autorité. Mais c'est leur apprendre à faire confiance à leurs parents.
C'est vrai que moi, j'ai eu très peur au départ, quand je savais que j'allais avoir un enfant. J'ai eu vraiment, c'était ma plus grande peur, c'était de devenir comme mes parents, en fait. J'avais quelque part l'impression que c'était inéluctable. C'était quelque chose où j'avais beau être comme je l'étais, j'allais retomber dans les mêmes schémas et j'allais reproduire les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'étais très angoissé, parce que pour moi, c'était... j'allais devenir une autre personne, une personne que j'aimais pas, quoi. Voilà. Et la réalité, c'est que bon, j'étais vraiment en pleine conscience de ce qu'était l'éducation de mes parents et j'ai jamais ressenti un besoin de... Ne serait-ce que cette mise à distance dont je te parlais. J'ai jamais ressenti ce besoin-là, quoi. Jamais, enfin. Comme quoi, c'est... Voilà, c'est pas... On reproduit pas toujours, on n'est pas toujours victime de son hérédité, parce que c'est vrai que je viens d'un milieu comme ça, mais c'est complètement étranger à moi, en fait. Voilà.
Finalement, les amis étaient très importants, parce que j'allais chez les amis, et que chez les amis, il y avait les parents des amis. Il y a beaucoup de, dans mon histoire, beaucoup de gens comme ça qui ont été des modèles très importants, sans qu'ils le sachent vraiment. Ça a été très important pour moi, ça m'a permis d'adopter une certaine fantaisie, de la flexibilité, de l'humour. Ça m'a aidé, même si voilà, j'ai fait que passer dans cette famille quelques années. Et puis, en tout cas, je pense que c'est important de multiplier les possibilités dans l'éducation, plutôt que d'encadrer, de normer, de formater, de dire qu'il n'y a qu'une solution, en fait. Je pense qu'il y a autant d'éducation que d'individus.
Je dirais que ce qui m'a fait beaucoup de bien étant enfant, c'est le fait d'avoir été éduquée non pas simplement par mes parents ou mes grands-parents ou par l'école, mais c'est le fait aussi d'avoir été éduquée par d'autres personnes. J'ai beaucoup écouté les amis de mes parents et été rechercher de l'écoute ou du réconfort auprès d'eux, et pas simplement auprès de mes parents. Et mes parents l'ont accepté. Mes parents ont accepté le fait qu'il ne suffisait pas à mon éducation. Il y a cette expression-là que j'aime bien, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je pense qu'il faut véritablement tout un village pour éduquer un enfant.
On ne transmet plus maintenant les mêmes valeurs que celles que nos parents nous ont fait avaler. Déjà moi, par rapport à mes enfants, je te dis, il y avait eu mai 68. Donc, je crois que mai 68 avait secoué quand même pas mal les jeunes parents qu'on était à l'époque. Donc là, déjà, ça a fait une génération différente. Et donc, je ne crois pas qu'on se transmet encore les mêmes valeurs que ma grand-mère avait, que ma mère avait, que j'ai donc reçues. Je ne pense pas les avoir transmises telles qu'elles à mes enfants, parce qu'il y a eu trop de changements dans la société. Et maintenant, je vois que mes enfants, avec leurs propres enfants, sont nettement plus laxistes. Ils ont plus de facilité que moi à leur faire confiance que moi je n'ai eue. Et peut-être parce que moi, je vais toujours demander la permission pour tout, quoi. Donc, de génération en génération, on voit qu'on relâche de plus en plus la notion d'obéissance en la remplaçant par la notion de confiance. Et je trouve ça très bien.
Donc nous, ici, on peut parler des chiffres des équipes SOS Enfants. Et pour l'année 2021, il y a eu 6850 signalements qui ont été réalisés au sein d'une équipe SOS Enfants, sachant qu'il y en a 14 qui couvrent l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ce sont des signalements pour des faits de maltraitance sexuelle, par exemple, qui sont en nette augmentation et qui atteignent 26% des appels reçus. 19% concernent des maltraitances psychologiques. 17% des enfants qui sont exposés aux violences conjugales répétées et près de 12% d'enfants victimes de négligence grave. Et enfin, il y a 26% des appels qui concernent des maltraitances physiques. À chaque fois, c'est la maltraitance dominante qui a été prise en compte pour ce calcul.
Peut-être pour ajouter, ce qui est très interpellant, c'est que si on considère les chiffres des années précédentes, ils sont vraiment en augmentation assez forte. Donc, il n'y a jamais une année qui stagne, dont les chiffres stagnent, ou voire même, et ça, ce serait intéressant que ça puisse reculer. On est toujours dans l'augmentation et donc une attention qu'on doit avoir de manière soutenue par rapport à tous ces cas de maltraitance.
Oui, il y a toujours. Et puis, bon, de toute façon, je pense qu'on quittera cette terre, il y aura toujours ce système. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'enlever, mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Donc, il y aura toujours ce système d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est pour ça que, bon, bah, j'espère que la nouvelle génération va travailler énormément là-dessus. Puis, je pense qu'il faut apprendre par soi-même. Ne pas apprendre ce que les parents ont vécu. Il faut qu'ils fassent leur propre vie comme ils l'entendent, mais pas faire comme les parents. Parce que les parents, je ne pense pas qu'on a tout fait bien, comme moi, comme mes parents, comme peut-être les parents de mes parents. Ça, on ne sait pas. On pense qu'on a fait bien, mais je ne pense pas. Non, les parents n'ont pas toujours raison, c'est faux, parce que bon, bien souvent, les enfants ont raison. Mais c'est que les adultes ne veulent pas le comprendre. Voilà, c'est tout. Ben, j'ai été tapé, et j'avais raison. Quand on m'a tapé, j'avais raison. Mais bon, j'ai des marques sur moi à vie qui ne partiraient pas parce que j'ai été tapé. Donc voilà, et c'est des choses que je ne parle pas. Je n'ai pas envie d'en parler, et puis bon, ben voilà, je ne t'en dirai pas plus. Voilà.
Ma chère petite maman, je peux comprendre tout ce qui t'a fait agir comme ça. Que tu as une vie très dure. Que la violence est là, dans notre famille, de génération en génération, et que tu n'as pas réussi à arrêter tout ça. J'en suis triste. Pas seulement pour moi, pour nous, mais aussi pour toi. Tu as ta part de responsabilité, mais tu n'es pas la seule. Les voisins, les profs, les deux assistantes sociales que Marie-Laure et moi sommes allées alerter, personne n'a rien fait. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital. Je voudrais aussi te dire que tout ce que je viens de raconter ne suffit pas à te définir, ni à me définir. Que tu étais et faisais aussi de bonnes choses. Souvent dans ma vie, j'ai pleuré la maman que je n'avais pas. Et maintenant, je me rends compte que je pleure celle que je n'ai plus. Alors, je fais cette musique pour toi. Ne pleure pas. Un documentaire radiophonique d'Isabelle Sainte-Rose. Accompagnement à l'écriture, Lucie Robet. Prise de son studio, Mathieu Charret, Valérie Leclerc et Joachim Glaude. Montage, Roxane Brunet. Mixage, Joachim Glaude. Production, Marianne Binard. Musique, Isabelle Sainte-Rose. Avec Philibert, David, Marie-Paul, Franz et Lucie. Merci à Sylvie Anzalone, porte-parole de l'ONE, et Olivier Bèze, référent maltraitance de l'ONE. Merci à toute l'équipe de la CSR. Une production d'Allo la Lune, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'aide de l'atelier de création sonore et radiophonique.
Gymnastique sonore se termine pour aujourd'hui. Vous avez entendu « Ne pleure pas », un documentaire de Isabelle Sainte-Rose. Pour plus d'informations sur cette émission et pour retrouver toutes les archives de Gymnastique sonore, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.